Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 10 janvier, il est 8h30 au programme de cette matinale, nous sommes en direct avec David, bonjour.
Bonjour.
Et Thibaut, bonjour.
Bonjour.
Et ben voilà la bonne nouvelle de 2024, après une petite pause, le groupement d'œuvres liquides, la Gaule, revient pour de nouveaux brassins, dans un tout nouveau lieu, on en parle avec vous dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, c'est Léo Martin, coordinateur du programme local de prévention des déchets pour la Sictum, enfin on verra que c'est plus comme ça qu'il faut l'appeler, en tout cas nous verrons avec lui entre autres ce qui change pour cette structure et donc pour nous aussi quelque part et ce sera tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab, aujourd'hui j'ai choisi Yves Jamais et on commence par l'édito.
On peut être en désaccord, mais enfin vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Allez, tout va changer, on a un nouveau Premier ministre. Non, je déconne. Je vais rien vous apprendre, et malgré le léger froid en ce moment, nous vivons sur une planète en ébullition. Selon son analyse annuelle du climat mondial publiée le mardi 9 février, l'Observatoire européen Copernicus confirme que 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850, date à laquelle les températures mondiales ont commencé à être relevées. D'après ce programme de l'Union européenne, qui collecte les données climatiques à l'échelle planétaire, la température moyenne mondiale a été en 2023 de 14,98 degrés, soit 0,17 degrés de plus que la valeur annuelle la plus élevée enregistrée jusqu'ici en 2016, le précédent record. Pire, en 2023, la planète a atteint une élévation de température globale de plus 1,48 degrés par rapport au niveau pré-industriel, frôlant la barre symbolique de plus 1,5 degrés de réchauffement à ne pas dépasser, fixé par l'accord de Paris en 2015 afin de freiner le dérèglement climatique. L'accord de quoi? L'accord de quoi? La COP combien? Et où ça déjà? L'arrêt des énergies fossiles? Mais pourquoi faire? On s'en fout, on a chaud. Et le mieux, c'est qu'on a un nouveau Premier ministre, ça va tout changer, et à tous les niveaux. Non, je déconne.
Sur le comptoir de l'univers, une Vénus crépusculaire boit du rhum un peu amer en attendant son Jupiter dans sa parure d'oripeau. Ainsi elle est comme dans Saturne, une fumée bleue de Neptune sortant de sa bouche en anneau, de verre en verre au bas de l'univers. Je pars de bière en bière, j'ai plus les pieds sur terre.
De bière en bière, allez, on va parler d'un sujet beaucoup plus réjouissant, le retour en plateau avec David et Thibaut pour la Gaule, merci d'être avec nous. Alors ça y est, vous reprenez du service après une pause de combien de temps?
Un an
pile poil quoi.
Un an pile poil, ouais.
Alors il a fallu du temps parce que vous avez quitté un lieu et vous en avez investi un nouveau, racontez-nous tout, c'est où?
Alors c'est à Colobrière, sur la commune des Bondons, donc c'est... 25 minutes, une demi-heure, ça dépend comment on roule de...
Ah, Véro, elle mettrait 15 minutes, quoi.
ouais, c'est faisable, possiblement.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf, là-bas?
Alors, ce qu'il y a de neuf, tout. Il n'y avait rien avant. En fait, le local est fait sur mesure, on va dire, pour la bière. Mm-hmm. C'est un petit temple de la bière.
Ça, c'est ça qui va être bon. Et comment elle est née, cette aventure? Et quand, d'ailleurs, cette aventure de la Gaule?
Et ben bah, oui, alors l'aventure de la Gaule, ça a commencé en février 2016. Donc moi je venais de Marseille, j'avais déjà fait une association brassicole là-bas avec des potes. Et arrivé en Lozère, du coup, on avait vu quand même, les gens étaient bien motivés. On a eu la chance de croiser, moi j'ai croisé Thibaut. Grâce à Sébastien qui était un Marseillais qui était venu là. Du coup, grâce à lui, on s'est
rencontrés par hasard au temple de Saint-Martin-de-Lansusque. Les deux mois plus tard, on créait la Gaule.
Ouais, on s'est réunis avec des potes et on a créé la Gaule et on a commencé d'abord à brasser dehors en fait, à côté d'un lavoir, pendant trois ans. Après, on a eu un de membres du CA qui a acheté une maison du coup à Florac et on était dans son énorme hangar en dessous là. Mmh. Là, on est resté 2 ans.
Non, 3-4.
3-4, waouh.
C'est vrai. Le temps passe vite. Hein.
3-4, il faut compter.
On va avoir 8 ans dans 2 mois. 4,
donc, ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Donc 3 ans à peu près, 3-4 ans. Il y a eu quand même, c'est vrai que le Covid, bon, bah, ça a été une petite période molle, mais. Ouais, donc ça fait 8 ans, voilà, qu'on s'est réunis donc, pour faire de la bière ensemble, quoi, et puis proposer aux gens de venir. Brasser de la bière avec nous pour apprendre à faire la bière.
Alors, on va parler du principe dans quelques instants. Est-ce qu'il y a des évolutions dans ce projet associatif ou est-ce que ça reste identique à tout ce que vous avez fait jusque-là?
Alors, on veut plus se focaliser sur les brassins participatifs. Alors, on veut continuer à faire un peu d'événementiel, mais moins chargé sur l'événementiel et vraiment s'atteler à faire de la bière. Mais bon, pour ça, il faut remplir les brassins participatifs. S'il y a aucun participant, eh ben, on va devoir changer de stratégie.
Ouais, en fait, nous, normalement, donc, on fait de la bière avec des participants qui apprennent à faire la bière et qui repartent avec. Et du coup, c'était l'objectif. Et on a quand même, à chaque fois, on garde un petit peu de bière et on fait des soirées. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent uniquement les soirées, quoi. Alors que
les fameuses soirées de la Gaule, voilà, c'est mythique à chaque fois.
Ouais. Quand même, le cœur, enfin notre assoce, c'est le but, c'est de faire de la bière, quoi. Et du coup, il y en a qui viennent la consommer
juste
seulement. Ouais, alors c'est cool hein, aussi, c'est sympa, mais c'est vrai que nous, on aimerait bien vraiment que ça reparte cette activité de brassin participatif. Et surtout, un des changements qu'on avait indiqué au conseil d'administration, c'est qu'on voulait que faire vraiment les brassins participatifs. Et si on a de la bière, on fera des soirées. Donc c'est pour ça que Thibaut prévient, quoi. C'est s'il n'y a pas de brassin participatif, hein, si vous venez pas brasser la bière, qu'est-ce qu'on va boire aux soirées, quoi.
Oui, on pourra pas.
Alors justement, votre principe, c'est pas évidemment de concurrencer les brasseries lausariennes, on s'en fout. Vos brassins reprennent, si je ne m'abuse, ce week-end, j'ai dit ce week-end, mais ça y est, on s'est mis d'accord, c'est dimanche 14. Il reste 4 places. Alors moi, j'en avais fait un en 2019, me semble-t-il. Mais pour celles et ceux qui n'auraient pas idée de ce que c'est, c'est quoi un brassin participatif?
Alors,
comment ça se passe concrètement?
Concrètement. Faut se bloquer le dimanche, si vous venez le dimanche, parce que ça va durer de 9h à 19h à peu près, si on est dans les temps. Il faut ramener un peu quoi manger pour midi, mais on brasse du coup une journée, un brassin prend une journée, on va brasser deux bières différentes avec deux techniques. Souvent on se met d'accord entre les 6 participants, on fait de la bière à façon en fait, donc on va faire de la bière avec vous, on va créer les recettes avec vous, et... L'idée, c'est que vous repartiez avec deux bières différentes un mois plus tard. Donc un mois plus tard, vous revenez avec des bouteilles propres que l'on va re-remplir. On fait un embouteillage ensemble et vous repartez avec votre part de bière. Du coup, c'est comme un micro-stage à 50€ la part de stage. Voilà.
Et après on repart avec 20 litres de bière parce qu'il y a des c'est vrai que à Montpellier tout ça, à Nîmes, tu peux aller dans une t'as des entreprises comme ça qui proposent des journées de brassin en fait, et tu repars avec 2 litres de bière, quoi. Tu payes 50€. Nous c'est pas l'idée, nous on est des bénévoles et le but c'est vraiment que les gens apprennent à faire leur bière, se réapproprient quoi ce savoir populaire, quoi. Avant, dans tous les villages, il y avait quelqu'un qui faisait la bière, hein, sinon on n'avait rien à boire. Ou du vin, quoi. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à faire sa bière pour se la faire, quoi. Et même, alors, on a changé... Il y a un truc nouveau aussi cette année. Mais bon, ça, c'est le Graal. Il faut vraiment savoir bien brasser. C'est que le but aussi, donc cette brasserie, elle est dispo, c'est de venir encadrer par nous pour apprendre à faire la bière. Mais après, c'est aussi possible, si on devient autonome, de venir utiliser le local carrément pour faire sa bière.
Ah, génial.
Et là, on a un tarif, donc brasseur autonome. Là, il doit être certifié, validé par le CA. Donc, et les brasseurs, quoi. Donc, on va vérifier qu'il n'abîme pas le matériel.
Il y a tout un jury.
Ouais, voilà. S'il utilise le grattoir pour les cuves, là, il est éliminé direct. Du coup, ouais, les petites conditions d'accès. Ouais, mais une fois que tu sais brasser et que tu fais gaffe au matos, que tu es venu pas mal de fois brasser, quoi. Même sans forcément prendre une part de bière, parce que oui, aussi ce qu'on voulait dire, c'est que ces journées de brassin participatif, il y en a qui viennent pour faire leur bière et partir avec, voilà, se former à... Mais il y a aussi des gens qui peuvent juste venir regarder.
Oui, la porte est ouverte.
La porte est ouverte, oui, c'est clair. Donc du coup, voilà, il faut venir. Et puis après, tu peux devenir brasseur autonome. Et là, tu as un tarif à part, quoi. C'est 1,50€ le litre de bière. Donc c'est moins cher qu'au supermarché. Tu te fais ta bière et c'est tout. On fournit la matière première, les houblons et on paye les douanes, quoi. C'est tout légal. Et puis, on peut comme ça faire sa propre bière, quoi. Ah, et on peut aller jusqu'à... Bon, quand on est brasseur autonome, on peut se faire 180 litres de bière d'un coup, quoi.
C'est pas mal.
Pour l'année.
Justement, tu parlais de matière première, vous utilisez quoi comme céréales et comme houblon, ça vient d'où?
Alors, le malt, on arrive à le prendre bio, du coup à la malterie du Vieux Silo, c'est une malterie dans le Tarn, il y a beaucoup de brasseurs dans le coin qui
ouais,
prennent
notamment là-bas. Bertrand, je pense
qu'ils se font là-bas. Ouais. Après, pourquoi pas tester d'autres malteries, ils s'en créent un peu partout, enfin... À voir. Déjà, celle-là, on a pas mal de malt à passer de celle-ci. et après, sinon, par contre, pour les houblons, c'est difficile d'être en bio, ouais, pour les levures aussi, et surtout d'avoir des tarifs. Enfin, nous, on paye le tarif un peu fort, parce que notre principe, c'est vraiment de faire de la bière à façon, en fonction de ce que veulent les gens. Donc, on a plein de sortes de houblons différents, plein de levures, comme ça, on peut
plein
faire...
Plein de malt spéciaux aussi.
Oui, voilà. On peut faire toutes sortes de bières différentes. Et du coup, tout ça, on l'achète en tout petit paquet. Donc voilà, on le paye deux fois plus cher qu'un professionnel. Mais c'est pour que les gens puissent choisir vraiment s'il y a un goût, un houblon avec un goût fruité qu'ils ont envie d'essayer. Ben voilà, ils peuvent, s'ils ont envie d'essayer un autre houblon. Enfin voilà, on est très libre sur les recettes comme ça. C'est, alors que si on achetait en grosse quantité, on se retrouverait avec des sacs à passer et on serait un peu...
Ouais. Puis la qualité des houblons bresserait. Ouais. En fait, ouais, le malt, c'est dans une bière, là, quand on fait 100 litres de bière, il y a à peu près 25 kilos de malt. Donc ça représente quand même un gros poids. Donc là, il faut vraiment prendre dans du local, quoi. Mm-hmm. Et du coup, là, on fait très attention de prendre du bio local. On sélectionne bien nos malts dans cette optique-là. Et après, par contre, les houblons, voilà, là, c'est moins lourd, bon, et ça vient de, il y a des houblons quand même qu'on utilise qui viennent d'assez loin. Mais c'est pour proposer, voilà, aux participants vraiment une grande diversité de houblons et voilà, et le bio, comme tu disais, le bio c'est inaccessible pour nous. Les houblons qu'on veut en bio, c'est que la jonte qui arrive à les avoir, hein, par exemple.
Thibaut.
Oui, je voulais dire qu'il y avait une nouveauté cette année et pas des moindres au niveau des ingrédients qu'on oublie souvent, c'est l'eau.
Alors qu'il en faut quand même.
C'est l'ingrédient principal de la bière. Et là maintenant, on brasse à l'eau de source.
Ouais, on avait brassé à l'eau de source à Fayet, après là à Florac, on était sur l'eau de ville, et là on repasse à l'eau de source, ouais, ça va quand même changer les choses.
Tu m'étonnes. Justement, tu parlais des douanes tout à l'heure, Davy, vous êtes une association, est-ce qu'il y a des autorisations particulières à demander en préfecture quand vous avez créé les statuts, etc. Comment ça se passe concrètement?
Oui, voilà, en France, en fait, t'es obligé, si tu produis un litre de bière, t'es obligé de payer des taxes dessus. C'est les douanes, du coup, qui font payer ce qu'on appelle les droits d'assises sur l'alcool. Donc, pour le vin en France, bon, tu peux faire 100 litres de vin, si tu veux, mais et t'as pas besoin de déclarer aux douanes. Mais pour la bière, par contre, tu fais un litre, t'es obligé de le déclarer aux douanes, en toute théorie. Ça fait 15 ans voilà, qu'en France, 15 ans, qu'il y a des brasseurs amateurs donc qui font leur bière chez eux et qui ne respectent pas la loi vraiment. Mais bon, vu que la loi est très rigide, donc c'est bien laissé faire, heureusement. Mais nous, vu qu'on a, on a une visibilité publique et tout, nous, on a fait la démarche, donc il y a 8 ans hein, déjà, de demander le statut d'entrepositaire agréé. Donc on déclare à chaque fois qu'on met en bouteille un litre de bière, voilà, on le note et on déclare tous les mois aux douanes ce qu'on produit. Et à partir de là, en fonction de ce qu'on a sorti du local, et ben on va payer des droits d'assises. Donc la seule législation vraiment contraignante,
c'est les
droits d'assises. Ouais. Parce que pour le coup, les impôts, nous on en est exemptés vu que... en concurrence pas les brasseurs, parce que le but c'est pas de les gens des fois viennent font, on peut vous acheter de la bière, non on peut pas acheter de la bière, non on peut faire de la bière, voilà,
mais oui, parce après... qu'en fait aux yeux des impôts nous en fait on est là pour faire pour animer un stage d'échange de savoir-faire. Mm-hmm. On n'est pas des producteurs de bière, les gens viennent, nous on les accompagne pour faire leur propre bière, mais on est animateur d'un échange de savoir-faire. Mmh.
Alors, au début, tu faisais, David, un petit topo au début de l'atelier qui durait une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être une heure, je ne sais plus, parce que ça fait quand même 4 ans au moins, ouais. 3 ans, mais 4 ans. Est-ce que tu vas, enfin, ou Thibaut aussi, vous allez refaire le même principe, c'est-à-dire expliquer le chemin un peu de la bière?
Ouais, on essaye de travailler sur la pédagogie un peu, Alors, brasser, du coup, il y a quand même pas mal d'étapes. Donc, c'est qu'en début de journée, pour voir un peu où les gens vont, on essaie de leur expliquer rapidement toutes les étapes. Mais souvent, il y a quand même beaucoup de choses à intégrer. Et parce que ça, c'est pas si compliqué que ça à faire de la bière. Mais après, avec le matériel qu'on a, il y a quand même pas mal de petits détails techniques. Il faut faire attention à certaines choses. Donc, ouais, globalement, le principe de la journée, c'est ça. C'est qu'on va d'abord présenter un petit peu ce que c'est la bière, comment on l'a fait dans les grandes lignes. À partir de là, on va présenter les ingrédients et voir, quel ingrédient va jouer sur quoi et ce qui va nous permettre, sur quel facteur, le goût de la bière, comment ça va jouer, la couleur, la mousse, l'amertume, les saveurs fruitées, tout ça, florales. On le dégrossit au début de journée pour pouvoir construire la recette. Pendant ce temps-là, l'eau chauffe, parce qu'il y a beaucoup d'eau à chauffer quand même. Et une fois qu'on a dégrossi ça, on a notre recette et on va commencer la bière en concassant le malt. Et après, c'est parti. Et tout au long de la journée, en fait, on explique à chaque étape à quoi ça sert. Et des fois, on fait des petites manips.
Oui. Bah, de toute façon, on peut varier sur beaucoup de paramètres dans la bière tout au long de la journée. Du coup... En fait, au fur et à mesure, même si les gens ils savent pas vraiment la recette, ils n'ont pas une idée en tête précise de la bière qui de leur rêve. au début, on va surtout définir quel va être le degré d'alcool et la couleur. Ça va donner la quantité de malt qu'on va concasser et dont on va extraire le sucre. Ensuite, on va faire des décoctions de houblon. Donc là, on va définir si on la veut très amère, pas très amère, très fruitée, pas très fruitée. Et ensuite, voir avec les levures ce qu'on va travailler, ce qu'on va valoriser. En fait, les levures vont venir amener certains goûts en plus, mais aussi valoriser les goûts qu'on a travaillés avant. Et puis voir si on fait un dry hopping en plus pour ajouter encore plus de fruité. Enfin, on peut, au fur et à mesure de la journée, et même au fur et à mesure de la fermentation, continuer à agir sur le goût que va avoir la bière finale.
Est-ce qu'on pourrait faire une triple en une journée? C'est pas possible?
Une triple, si
c'est carrément possible. C'est possible. Ça, c'est ma spécialité.
C'est quadruple.
Je viens de passer mon record. J'ai une densité initiale de 1111, ouais, c'est-à-dire une bière à 14 degrés.
Ouais, bon, moi, je sais pas quelle levure va fermenter ça. Hein. T'as abusé. Elles vont être toutes pétées et à 10 degrés, elles vont tomber au fond. C'est quoi cette bière?
C'est expérimental.
Mais puis il faut y aller, après tout. On a une émission qui s'appelle Tout un monde où on dit que c'est les nouveaux druides. Je suis assez d'accord avec ça. Je ne saurais que vous conseiller d'aller ce dimanche à Colobrière pour passer une journée avec Thibaut et David pour brasser votre bière. Moi, je l'avais fait, c'est absolument génial. C'est pas cher, hein, 50 balles pour 50 litres. Pour
20 litres.
Pour 20 litres. J'ai dit 50 balles, 50. Oui, d'accord.
Ça,
c'est un peu abusé.
C'est vraiment pas cher.
50 balles pour 20 litres et en plus de ça, apprendre un savoir-faire. Alors, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, mais on vous avait vu participer à différents événements où vous brassiez sur place. Je me souviens de la Ronde des Mousses, par exemple, à Chanac, il y a quelques années, événement qui n'existe plus. Mais ça, c'est peut-être aussi une idée pour vous donner un peu de visibilité. Est-ce que vous avez des projets comme ça cette année?
Il y a Gare à la bière qui revient cette année. Ils ont fait juste une petite pause l'an dernier. Après, il y avait eu une petite pause Covid aussi, mais l'année d'avant. Enfin, sinon, depuis qu'ils ont lancé, à part la première édition, sinon, on fait des brassins en live à chaque édition.
On l'avait fait aussi pour l'inauguration
la ronde des mousses.
On avait fait la ronde des mousses, car la bière.
Ouais, ils ont relancé la ronde des mousses.
Bière Circus aussi.
Bière Circus.
Là, c'était 20 litres en bas.
Ouais. Bière Circus, à voir s'ils nous rappellent, mais a priori, l'équipe qui organise le festival a changé.
Après, c'est vrai qu'il y a eu on a loupé des choses. C'est que il y a par exemple à Hispaniac, là, ils font aussi le foyer rural. Les petits cailloux font un échange de savoir et c'est vrai qu'il faudrait qu'on essaye d'y participer à ça. Mmh. Ça pourrait être, parce qu'aller brasser dans le Gard, c'est bien, mais ça ne nous ramène pas beaucoup de monde. Même si on en a un, André, qui va venir peut-être à un moment-là.
Ouais.
Qui vient du Gard, qu'on a rencontré à Gare-la-Bière et qui fait la route pour venir brasser avec nous. Mais ouais, il faudrait qu'on essaye d'effectivement de faire des événements où on montre comment on brasse la bière et pour inciter les gens à venir. Mais...
Ouais. Alors, petit résumé, donc ça se passe à Colobrière, c'est ce dimanche, comment on s'inscrit ?
Alors, on s'inscrit sur notre page Facebook, puisque c'est le plus simple. Donc vous tapez Groupement des œuvres liquides.
Ou même Gaul Florac, ça marche aussi.
Gaul Florac, ça marche aussi, c'est encore plus court. Ouais, c'est long, Groupement des œuvres liquides à écrire. Mais du coup, là, direct, vous allez voir en fait, une affiche qui explique comment ça se passe, avec un lien avec un Framadate, donc c'est un sondage en ligne, pour pouvoir s'inscrire. Donc là, pour le moment, on n'a mis que deux dates possibles. Donc il y a ce week-end, embouteillage. Le 25 février, et du coup, le 25 février, on refait un brassin en même temps qu'on embouteillera le 24 mars. Donc, il y a ce dimanche-là et le 25 février.
25 février, voilà. Et du coup, sinon, après, pour ceux qui n'ont pas suivi tout ça, on peut donner l'adresse mail juste. Du coup, pour nous contacter, c'est oeuvre-liquide@laposte.net et oeuvre. Donc c'est avec un S et liquide aussi, hein, c'est au pluriel, donc oeuvres-6 liquide avec un S, @laposte.net.
C'est ce dimanche à partir de 9h, je mets évidemment tous les liens sur notre site internet dans un instant et l'adresse mail que tu viens de donner. Allez-y, même pour passer juste un petit moment, aller voir un peu comment ça se passe. Si vous n'avez évidemment pas 10 heures devant vous, ça arrive aussi. Hein,
oui,
Mais passez voir, vous allez passer un agréable moment. Merci David, merci Thibaut.
Ouais, merci à toi.
Merci.
Le retour de la Gaule, c'est ce week-end et ça fait bien plaisir. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, évidemment. Allez, on se retrouve dans un instant avec Léo Martin. On écoute Yves Jamais. Le morceau, c'est l'autre.
C'est un fardeau, c'est une enclume, c'est un brouillard dans une brume. C'est illisible, c'est imprévu, c'est essentiel et superflu. C'est très différent, il me semble, de moi pourtant ça me ressemble. C'est pourquoi tant je m'en méfie, ne suis-je pas mon pire ennemi? L'autre, celui qui se distingue de ne pas être moi, oh l'autre. Celui qui tient le flingue ou qui lève les bras, l'autre. Celui qui me rend dingue ou celui qui me choie, l'autre. L'autre pour qui l'autre c'est moi. S'il me méprise, il me manque. S'il se découvre, je me planque. Est-ce un enfer, un paradis? Il vient à moi comme une énigme. Il me porte, il m'insupporte, il me fascine. Je le reporte en grappant foule à l'unité. Y a pas moyen de l'éviter. L'autre, celui qui se distingue de ne pas être moi, oh l'autre. Celui qui tient le flingue ou qui lève les bras, l'autre. Celui qui me rend dingue ou celui qui me choie, l'autre. Est-ce que lui me perçoit tel que moi je le vois? Qui est-il? Qui est-elle? Ai-je besoin d'il? Ai-je besoin d'elle? Est-ce que lui me perçoit tel que moi je le vois? Qui est-il? Qui est-elle? Ai-je besoin d'il? Ai-je besoin d'elle? Est-on vraiment fait l'un pour l'autre? Celui qui se distingue de ne pas être moi, oh l'autre. Celui qui tient le flingue ou qui lève les bras, l'autre. Celui qui me rend dingue ou celui qui me choie, l'autre. L'autre pour qui l'autre c'est moi.
L'autre c'est moi. L'autre c'est moi. L'autre c'est moi. C'est un voyage interminable. C'est un monde impitoyable. C'est une friche, c'est un désert. Un terrain vague, c'est une mer. C'est une autre planète. C'est une île déserte. Une évidence ou un mystère. L'étrange étranger de Prévert. L'autre, celui qui se distingue de ne pas être moi. Oh l'autre, celui qui tient le flingue ou qui lève les bras. L'autre, celui qui me rend dingue ou celui qui me choie. L'autre, l'autre pour qui l'autre c'est moi. L'autre c'est moi.
Qui est-il, qui est-elle?
L'autre c'est moi.
Ai-je besoin d'il, ai-je besoin d'elle?
L'autre c'est moi.
Qui est-il?
L'autre c'est moi.
Vous êtes bien sur Radio Bartas, sur le 107, on vient d'écouter Yves Jamais, l'autre, et nous sommes de retour en plateau avec Léo Martin. Bonjour Léo.
Bonjour Ben.
Léo, tu es coordinateur du programme local de prévention des déchets PLPDMA, pôle prévention des déchets à la SICTOM de Florac. Merci d'être avec nous. Avec toi, on va parler justement de la gestion des déchets, mais aussi du compost, un sujet ô combien important, et de tout ce qui est mis en place depuis le 1er janvier. Déjà, est-ce qu'on dit encore SICTOM ou est-ce qu'on doit parler de syndicat mixte, tout c'est la même chose.
Première correction, voilà. Et première modification, effectivement, on parle depuis le 1er janvier, on parle du syndicat mixte environnement Sud-Lozère. Donc on va le voir, j'ai prévu de faire un petit historique, un petit rappel historique de l'évolution du syndicat.
Ouais.
Et la dernière évolution, c'est au 1er janvier, dernièrement. Je commence par ça.
Bah allons-y, simplement pour commencer, le syndicat mixte existe depuis 1977, je pense.
Exactement, exactement. Il a été créé en 1977. Au début, il y avait 15 communes adhérentes du bassin plutôt proche du bassin de Vie-Floraquois. Et puis, il y a eu, depuis 1985 jusqu'en 2001, des adhésions et puis des départs de communes plus ou moins éloignées. Qui ont intégré les syndicats et le fait de bénéficier des missions du syndicat, c'est-à-dire la collecte des déchets et le traitement des déchets. Et puis, une première évolution en 2002, je ne sais pas si tu le sais Ben, mais il y avait un incinérateur à Florac.
Ah.
Ouais, il y avait un incinérateur, donc en fait, le traitement des déchets se faisait, on brûlait tout simplement les déchets sur place. Donc en 2002, il a été fermé. Et du coup, le syndicat a délégué la compétence, en fait, au SDE de la Lozère, la compétence traitement des déchets. Mmh. Voilà. Et puis, plus récemment, on a eu en 2017 l'adhésion, le regroupement des communautés de communes et l'adhésion de la communauté de communes de la Vallée de la Jonte. Mmh. Et dont les communes, dont plusieurs communes font partie, hein, comme Merueil, Saint-Pierre-des-Tripiers, Hurle-la-Parade, Gatuzière, Fraissinet-Fourque. Donc voilà, en 2017, on a eu de nouveau une adhésion. Et puis, aujourd'hui, en 2024, au 1er janvier, l'intégration de la communauté de communes des Cévenon-Mont-Lozère.
Ce qui représente 18 communes. Hein.
Qui représente 18 communes, 17 très exactement, ah. Puisque le pont de Montvert est déjà adhérent feu SICTOM depuis plusieurs années. Donc c'est l'adhésion d'une communauté de communes supplémentaire, mais on va dire uniquement de 17 communes et non 18. Mmh. Voilà.
Alors, c'est ça que j'ai appris en préparant cet entretien, c'est qu'en fait, les communes adhèrent. Alors, moi, je croyais que ça se faisait naturellement.
Non,
en fait.
Les communautés de communes adhèrent.
Les communautés de communes, voilà.
Et donc, les communes sont au sein des communautés de communes, donc c'est les communautés de communes qui adhèrent et qui délèguent la compétence déchets, en fait, au syndicat. On est le service public, hein, je suis agent territorial, fonctionnaire territorial. Mais voilà, c'est bien la communauté de communes qui adhère au syndicat.
Alors, quel est votre rôle? Quelles sont vos missions et in fine vos compétences?
Alors, les compétences du syndicat, c'est premièrement la collecte des déchets ménagers. Donc on connaît tous ça, hein, le ramassage des ordures. On est très attentif à tout ce que à ce qui soit toujours bien ramassé. Mmh. En général, c'est ce qui est très visible depuis longtemps dans le syndicat. Donc la collecte des déchets ménagers, les ordures tout simplement. Également, on gère, le syndicat gère en collaboration avec le SDE la gestion des PAV, les points d'apport volontaires. Vous savez, c'est les grosses colonnes vertes, jaunes, bleues qui sont réparties sur le territoire, dans lesquelles en fait, ben, point d'apport volontaire veut dire ce que ça veut dire. On amène directement et on fait son tri. Également la gestion des déchetteries. Donc on était depuis plusieurs années sur 4 déchetteries. Au 1er janvier, maintenant on est à 6. Et puis, ma partie, plus spécifiquement, je dirais la prévention et la sensibilisation. Donc le pôle prévention des déchets. Mmh. Voilà.
En termes de chiffres, est-ce que vous savez combien ça représente de tonnes de déchets à gérer par an? C'est compliqué ou
Je les ai pas.
Tu les as pas?
Non, je les ai pas. J'avoue que
je gomme la question.
Ouais.
Est-ce que vos moyens sont suffisants pour gérer tout ça et les 17 communes qui arrivent en plus?
Alors oui, nos moyens sont suffisants. Évidemment, on a du personnel. Permanent, mmh. En contrat permanent, et puis on fait souvent appel à des saisonniers pour la saison estivale et l'accroissement. On est considéré comme on est à la fois un territoire de montagne, mais on est aussi un territoire touristique. C'est-à-dire que l'accroissement de l'activité sur la période estivale, en fait, tout simplement, c'est le double en termes de tonnage sur les ordures uniquement sur juillet et sur août comparé au reste de l'année. Mmh.
Alors justement, tu es en prévention. Quel conseil tu donnerais pour la gestion des déchets ménagers, entre guillemets, ouais. Pour réduire nos déchets?
Alors, le tri. Trion. Évidemment, alors dit comme ça, c'est bête, mais ce qui coûte cher dans les déchets, en fait, c'est le traitement. Donc, évidemment, il y a le salaire des agents, la rémunération, le fonctionnement de la structure. Mais l'autre gros pôle de dépenses du syndicat, c'est le traitement des déchets. Mmh. Le traitement, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo l'enfouissement ou l'incinération. C'est les deux solutions finales dans la gestion des déchets. Nous, en Lozère, les déchets sont enfouis au site du Redoundel à Mende. Alors, il est exactement sur la commune de Badarou, au-dessus du Chastel.
Alors, on avait fait un reportage là-dessus.
Ouais. Et bon, c'est assez impressionnant. Hein. Je vous invite tous à aller le visiter. Dingue. C'est vraiment. Quand on a vu ça, on se dit ok, peut-être. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Du coup, pour répondre à ta question initiale, trier ses déchets, ça permet de sortir ce qui est valorisable et donc de réduire l'impact qu'on peut avoir sur les ordures ménagères. Ce qui coûte cher, c'est le traitement des déchets, l'enfouissement et l'incinération. Et cette poubelle noire, en fait. La poubelle noire, c'est elle qui coûte cher en traitement. Le fait de. Trier le fer, le carton, le plastique, et ben on va revaloriser certaines matières qui vont compenser le coût du traitement. Alors que si on le met dans la poubelle noire, en fait, on va aller les chercher par des opérations, également les biodéchets, hein, enfin les déchets organiques, et ouais. Le fait d'assécher ou d'aller chercher les matières dont on a besoin, qu'on cherche à récupérer, ben tout ça, c'est des opérations qui coûtent cher.
Donc ça veut dire que si jamais tu mets du plastique dans la poubelle noire, il va y avoir une opération pour aller l'extraire?
Alors, le plastique, oui, le fer aussi, mmh. Le carton, exactement. Et tout ça, c'est des opérations qui coûtent cher.
C'est tout à fait clair. Mmh. Alors justement, vous vous arrêtez pas d'évoluer, on l'a bien compris, hein, depuis 1977. Est-ce qu'au 1er janvier, il y a d'autres choses qui évoluent, plus des communes qui arrivent?
Bien sûr, on a l'évolution de la réglementation sur le tri à la source des déchets organiques. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2024, nous sommes tous en théorie obligés de trier à la source nos déchets organiques. Ça veut dire concrètement ne plus les mettre dans le sac noir ordures ménagères, dans la poubelle noire ordures ménagères. Je rappelle que les déchets organiques sont composés à 80 à 90% d'eau. La poubelle noire, comme je l'ai évoqué plus tôt, on la transporte. C'est-à-dire que nous, on collecte vos déchets qui vont dans la poubelle noire, on les amène à Florac, puis d'autres camions les amènent à Mende pour les enfouir. Entre-temps, il y a les étapes intermédiaires d'assèchement des ordures, qui coûtent cher. Mmh. Donc, l'obligation du 1er janvier, en fait, permet et a pour objectif de réduire, en fait, tous ces coûts de transport, ces coûts d'énergie et de traitement des déchets.
Alors, c'est clair. Donc, ça veut dire que, quelque part, le compost devient obligatoire, c'est ça?
Le compost ne devient pas obligatoire.
Voilà, on va le remettre au milieu du village, ouais. Le compost.
En fait, c'est l'obligation du tri à la source qui devient obligatoire au 1er janvier. Et pour cela, nous, en tant que, en tant que collectivité, en tant que dépositaire de la compétence déchets. En fait, on est obligé de proposer des solutions aux citoyens pour mettre en place ce fameux tri à la source. Mais quelqu'un qui a des poules, quelqu'un qui a des cochons, qui donne à des animaux plus généralement, quelqu'un qui fait un tas au fond du jardin, donc qui détourne déjà ses déchets organiques, participe à ce tri à la source et respecte déjà cela. Nous, ce qu'on propose, et depuis 2020 maintenant, c'est dans un premier temps, ceux qui le peuvent, qui ont un petit bout de jardin, c'est le compostage domestique, compostage individuel, le fait de pouvoir récupérer un composteur, participer à une formation gratuite d'une petite heure, et avoir la capacité et, je dirais, le savoir-faire technique pour que ça se passe bien.
C'est ça, et c'est 20 euros.
Alors, c'est 30 euros.
30 euros
parce qu'ils sont en bois, ils sont faits en Lozère.
Ils sont beaux. J'en ai un. Ouais. Ils sont vraiment
beaux. Non. Donc, du coup, c'est une petite participation. Les gens qui connaissent le bois savent que c'est du matériel de très bonne qualité.
Hein. Alors, j'ai pris quelques chiffres qui valent ce qu'ils valent. Hein. Seulement, nationalement, c'est entre 3 et 5% des personnes qui ont la capacité chez eux de composter. C'est pas beaucoup. Concrètement, j'habite au cinquième étage d'un immeuble. Comment je fais ?
Alors, je vais répondre à ta question. Nous, clairement, en Lozère, c'est plus que ça, hein, puisque c'est 3 à 5% de personnes qui ont la capacité de composter, puisqu'il n'y a qu'à voir le nombre de résidences pavillonnaires.
Oui.
Pavillonnaires, c'est, disons, maison et jardin. Nous, on est beaucoup plus que ça, hein, sur nos territoires. Pour répondre à ta question, en fait, donc, et répondre à l'obligation du 1er janvier qui vient de passer, en fait, on est en train de réfléchir, et on propose déjà du compostage partagé. De l'expérimentation au compostage partagé, c'est-à-dire que le but, c'est que ça fonctionne. Donc, dans cette optique-là, on définit un protocole qui a été acté, hein, et on va proposer à quelques communes volontaires de se lancer dans cette expérimentation pour valider le protocole, tout simplement, et en fait nous permettre d'assurer la gestion technique, mais aussi la gestion administrative du projet,
ouais,
et de s'assurer que ça marche.
C'est quand même lourd aussi à mettre en place.
Alors, c'est lourd. Administrativement, c'est lourd.
Ouais.
Techniquement, encore une fois, sur nos territoires, on est un petit peu une rareté, hein, que ce soit au niveau du syndicat, que ce soit au niveau de la Lozère, que ce soit en termes de densité de population. Donc, en fait, c'est une gestion technique, oui, mais c'est pas insurmontable, loin de là, puisqu'il y a des structures pro, des communautés de communes, des syndicats qui gèrent ailleurs en France de cette façon les déchets organiques et qui le gèrent bien et avec beaucoup plus de monde.
Quelles communes vont être pilotes ici dans le bassin sud-Lozère ?
Alors, rien n'est acté.
Ah.
Rien n'est acté encore, mais effectivement, il est pressenti qu'une commune comme Bédouès-Cocurès ou Florac seront pilotes parce que les élus nous ont sollicités. Les élus qui représentent leur commune au sein du syndicat sont moteurs aussi. Et voilà. Mais rien n'a encore été, je dirais, signé, mais on est en discussion et voilà, j'ai bon espoir que ça se fasse. Mmh. Il est évident qu'on a évoqué l'intégration du nouveau territoire, donc de la communauté de communes des Saint-Menon-Mont-Lozère. En tant que syndicat, on est obligé de proposer le même service partout. Donc on va aussi lancer des expérimentations dans les Cévennes, évidemment dans des communes de Cévenol.
Voilà. C'est une bonne nouvelle et on recevra très bientôt auditeur, auditrice Flore Théron, on lui en touchera un mot pour voir à peu près où elle en est là-dessus. J'ai juste une petite question entre parenthèses, ici à Florac, dans notre commune d'ailleurs, il y a des grandes poubelles jaunes hein, recyclables et à Corée-Stévennes, moi j'habite Saint-Laurent, c'est encore des bulles. Des colonnes, pardon.
Il faut qu'on ait le même vocabulaire parce que
avec
bien
plaisir.
Souvent effectivement, voilà, un conteneur 750 litres que le camion ramasse, c'est un conteneur à ordures ménagères ou un conteneur à emballage. Les colonnes. Sont beaucoup plus grandes en capacité et ça c'est le SDE de la Lozère, donc c'est Mende qui vient, c'est camion qui vient chercher ces points d'apport volontaires. Je t'écoute.
Donc en fait ça veut dire que Mende vient chercher les colonnes, voilà, et c'est une question de quoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel à Florac entre guillemets, ou est-ce que c'est... Pourquoi c'est différent ?
En fait, pourquoi c'est différent ? Parce que réglementairement, les communes de plus de 2000 habitants, en fait, doivent pouvoir disposer de ce tri sélectif de proximité. Et en fait, sur le sud de Lozère, la seule commune, Ben c'est Florac.
C'est Florac. Ouais.
Donc c'est pour ça qu'historiquement et depuis longtemps, à Florac s'est implanté. Mais figure-toi, donc tu m'as parlé de Carré Seven, figure-toi que depuis l'année dernière ou 2022, il me semble, en fait, on a étendu, donc ça c'est vraiment un choix politique, un choix stratégique, on a étendu cette collecte sélective des emballages, ces petits conteneurs jaunes, on l'a étendu à Ispagnac, mm-hmm. Bédouès Cocurès s'est équipé aussi, Merveille s'est équipé, le Pont de Montvert est équipé, et les axes, en fait, les axes principaux de circulation des camions, hein, parce que à circuler sur une route, autant ramasser des conteneurs.
C'est sûr.
Donc voilà. Donc, en ce qui concerne Carré Seven, voilà, je ne peux pas répondre, c'est pourquoi. Il n'y a pas vraiment de, pourquoi. C'est des choix qui sont faits. C'est aussi, tu l'as dit, est-ce qu'il y a assez de monde, est-ce qu'il y a assez de tonnage. Mmh. Mais là, avec ce que je viens de dire, donc il n'y avait que Florac. On a le centre, le bassin de vie floracois qui a été équipé. Hein, quand je parle de Bédouès Cocurès, Ispagnac, d'autres communes importantes, les centres-bourgs. C'est vraiment un souhait en fait de rapprocher aussi le service de la population. On sait très bien que la proximité fait le tri. Même si la proximité, c'est une thématique très subjective.
Ça, hein, c'est sûr.
C'est très subjectif. Entre les Cosnards ou, on va dire, quelqu'un qui vient en centre-bourg, est-ce que c'est proche, est-ce que c'est loin, c'est assez différent. Mais voilà, il y a quand même ce désir de maîtriser les coûts du service public de gestion des déchets, les impôts qu'on paye tous, hein, qui sont indexés sur le foncier, et aussi l'amélioration du service et du service rendu à la population.
Mmh. C'est tout à fait clair. Revenons au compost. Tu es ambassadeur, c'est ça, ambassadeur
Oui, j'ai une autre casquette. Effectivement, je suis ambassadeur pour la Lozère du réseau Compost Citoyen Occitanie. Donc, c'est le syndicat qui est adhérent. Mmh. Il se trouve qu'en Lozère, ça commence à se développer un tout petit peu, mais on a été le premier adhérent en Lozère, le syndicat. Et puis, on a également le syndicat mixte. La montagne, donc en Nord-Lozère, de la même façon qu'il gère les déchets sur deux Comcom, mmh. Qui est aussi adhérent. Et Florence Seldran est-elle membre du conseil d'administration du réseau Compost Citoyen Occitanie, mmh. effectivement.
Et donc ça permet d'échanger sur les pratiques un peu nationalement ou de vous former encore
Alors c'est une vraie ressource, effectivement, de se former. Le fait d'être adhérent, en fait, ça permet de bénéficier de formations gratuitement. Il y en a qui sont payantes aussi, hein, mais la majorité, lorsqu'on est adhérent, sont gratuites. Et en fait, c'est une vraie mine d'informations, de ressources documentaires, techniques, légales aussi. Et en fait, ça permet d'échanger avec des pairs, que ce soit des techniciens, de discuter avec des techniciens sur la façon de gérer le compost, des administratifs, de discuter avec des administratifs, en fait, sur ben, comment on met en place cette organisation, et les élus aussi. Parce que, alors moi, j'ai beaucoup de chance... Au syndicat, les élus sont concernés, ma direction aussi, et c'est pas du tout le cas ailleurs, enfin c'est pas le cas partout, et en fait les élus bien souvent ont une méconnaissance, et c'est normal, on peut pas savoir tout sur tout, mais le fait de manquer de connaissances techniques ou de gestion, ben en fait, comme toute chose nouvelle, on a peur, ou en tout cas on n'est pas aussi serein, pas aussi convaincu que ce qu'on pourrait. Mmh. Et la gestion d'un composteur, la mise en place de compostage, finalement, quand on commence un peu à s'y intéresser, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué.
Je peux en témoigner. Sur votre site, qui est vraiment bien fait,
il est tout nouveau.
Très très clair, ouais. Il y a une sensibilisation des professionnels aussi aux biodéchets. Où est-ce que vous en êtes un peu? Et est-ce que, comme tu l'as dit, hein, on vient de parler des élus, bon, les particuliers, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et d'ailleurs, on parlera de la prochaine formation, hein, s'il y en a une au compostage juste après. Où est-ce que les professionnels en sont par rapport à tout ça?
Alors, les professionnels sont accompagnés par le syndicat, et j'insiste sur le mot accompagnés, parce que en théorie, nous ne sommes pas obligés de faire cela, d'accompagner les professionnels. C'est-à-dire que les autorités nous disent, mon fonds de commerce, entre guillemets, c'est le particulier, c'est la gestion des déchets des particuliers. La gestion des professionnels, les professionnels doivent montrer patte blanche. On pourrait simplement demander aux professionnels de nous dire, ok, comment est-ce que vous gérez vos déchets? Est-ce que vous venez en déchetterie? Est-ce que vous avez d'autres moyens de les gérer, des acteurs privés? Alors, c'est pas le cas en Lozère, hein. En tout cas pas sur notre territoire. Mm-hmm. les professionnels en fait sont accompagnés de la même façon sur la mise en place du compostage. On subventionne le matériel, c'est-à-dire qu'il ne leur coûte que 50% du coût d'achat. Ils ont le droit à des formations gratuites. Mais voilà, le but, c'est de vraiment les accompagner. On pourrait très bien dire, encore une fois, qu'est-ce que vous faites de vos déchets ? Montrez-nous. Et rien proposer. Ouais, et c'est pas du tout un choix vraiment, c'est pas du tout un choix politique, hein, puisque encore une fois, il faut tout remettre ensemble sur nos territoires, les quantités de déchets, la densité de population. On est obligé pour avoir une certaine rentabilité, hein, parce que le service public ne cherche pas la rentabilité, mais en tout cas, on cherche surtout pas à creuser des trous financiers, quoi. Voilà.
C'est clair. Qu'est-ce que là, toi, vraiment, peut-être un avis personnel ou, enfin, dans ton travail et pour le syndicat, qu'est-ce que vous avez envie encore d'améliorer et de mettre en place là pour aller les 5-10 années à venir ?
Il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses en ce moment, puisque en fait. Avec l'intégration de la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, il faut qu'on développe. Qu'on développe les actions qu'on mène déjà sur, j'allais dire, l'ancien territoire, qui était quasi exclusivement sur Gorge-Cosse-Cévennes plus la commune du Pont-de-Montvert. Maintenant, il y a l'autre Comcom. Donc, il faut aussi développer et multiplier les actions qu'on mène actuellement. Donc, le compostage domestique, la sensibilisation au tri sélectif. J'ai eu des missions, on en a encore, on va en avoir encore des missions de. En fait, on passe en porte-à-porte chez les gens pour les sensibiliser aux bonnes pratiques de tri, dont on a parlé en début, pour tout simplement développer la part du tri sélectif. Donc, en fait, les missions sont identiques aux dernières années. Et comme tu l'as dit, sur les 5-10 prochaines années, c'est tout simplement trier plus, trier mieux, réduire nos déchets, essayer de mieux consommer. Et puis détourner en fait ce qui peut l'être. C'est-à-dire que dans les déchetteries, par exemple, aussi, on a des missions où on détourne les déchets verts. Plutôt que, encore une fois, de jeter de l'eau, de transporter de l'eau jusqu'à Mende, eh bien, il vaut mieux essayer de le broyer sur place et de laisser le broyat en libre accès à la population dans les déchetteries. Chose qu'on fait déjà depuis 3-4 ans maintenant.
C'est gratuit le broyat, les sacs sont à 5 euros je crois.
Alors oui, on fait une petite participation de 5 euros, mais ça paye pas du tout le temps passé et l'achat des sacs. Mais c'est vraiment pour inciter les gens à... Déjà, on a besoin de broyat pour faire du compostage. On ne fait pas de compostage sans ajout de matière sèche. Mais ça, c'est vraiment très technique et j'invite tout le monde à participer à la formation. Aux formations d'ailleurs. Et le broyat du coup est en libre accès dans les déchetteries. À condition de s'informer et de demander aux gardiens, évidemment. Mais voilà, c'est les missions qu'on met en place à la fois au sein du pôle prévention, sur le terrain, directement au contact des particuliers, et puis aussi dans nos installations, dans les déchetteries.
Transition de trouver, les prochaines formations compost, quand auront-elles lieu ?
Alors, les prochaines formations compost, il faut distinguer Florac, parce que historiquement, en fait, on fait des formations à Florac. Et puis là, avec l'agrandissement du territoire, l'élargissement du territoire, on a un agent, puisqu'on a recruté un deuxième agent. Du coup, donc, comme tout à l'heure je disais, on est une rareté en Lozère de par notre pôle prévention. On est d'autant plus une rareté qu'on n'a pas un agent en pôle prévention des déchets. Nous en avons actuellement deux. Donc les prochaines formations, sur Florac, la prochaine, ça sera mercredi 2 février, si je ne dis pas de bêtises, 2 ou 3 février. Et ensuite, en Cévennes, donc Saint-Étienne-Vallée-Française, Sainte-Croix-Vallée-Française, le Collet d'Aise, je vous encourage en fait à aller voir directement sur notre site internet. Donc sur le moteur de recherche, vous tapez Environnement Sud-Lozère, dans la rubrique Actualité. Vous avez la possibilité de consulter toutes les formations. Donc comme ça, de mémoire, je pense que mon collègue Thibaut Rouxel, qu'on a recruté... pour intervenir sur le nouveau territoire a prévu comme ça je dirais 6 ou 8 formations d'ici la fin février et ça se remplit bien.
Et on peut toujours passer vous voir dans vos locaux à côté de la déchetterie, hein, la porte est ouverte.
Évidemment, la porte est toujours ouverte.
Et je mets le lien sur notre site dans un instant, merci beaucoup Léo.
Merci beaucoup Ben.
Tu es coordinateur du programme local de prévention des déchets, pôle prévention des déchets au syndicat mixte environnement Sud-Lozère. T'as vu, j'ai pas dit sectum.
Non, mais c'est bien.
Bonne continuation,
merci.
À la prochaine.
Vous aussi, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. Sachez qu'Open Bartas revient en direct ce mercredi à partir de 19h sur le thème les menteurs. Cette matinale est rediffusée le jeudi à 17h. Donc, si on est jeudi, l'émission Open Bartas est déjà sur notre site. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous. Restez bien sur Bartas. On n'y est pas trop mal. On se quitte avec Il Jamais et Je Bois. N'oubliez pas le brassin de la Gaule. C'est ce dimanche à partir de 9h. À très vite. Ciao.
La petite clope qui tue le spleen vient de me réveiller un air. Quelques accords que j'assassine, sur lesquels je pose mes vers. Sans les casser, je les entasse dans des octosyllabes morts, en attendant que je trépasse d'en avoir apprécié le corps. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Je dis là que je me ratatine, je vois mon avenir en vain. Toutes mes émotions s'avident, mes vers en deviennent divins. Sur mes mots je pose mon prose et propose un deal à la lune. Que Pierrot nous lâche les choses et qu'il veuille nous laisser sa plume. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. La première fois que je t'ai vu, je devais avoir la gueule dans le cul. Pour mettre les cires ainsi tentées, fallait-il que je sois bourré? Fallait-il que tu me blesses? Je ne veux pas y penser. Fallait-il que tu me baisses si bien que je suis resté? Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Et je bois, et je bois, et j'imbibe ma carcasse de tout ce qui coule, qui est fort alcoolisé et qui fracasse. Le cœur et le corps abachis, me voilà donc sans toi chez nous, dans les relents de Givenchy.